bonjour, bienvenue dans l'émission médiatique, l'émission d'information proposée par France Lime sur l'antenne de RCF 61. Ça y est, le printemps arrive, les jours s'allongent, les températures remontent, les hirondelles vont bientôt revenir, le coucou va bientôt chanter. Mais malheureusement, les tiques, ces parasites mangeurs de son, seront aussi de retour. Et elles n'étaient pas parties bien loin, elles étaient juste tapies sous les feuilles mortes, dans les anfractuosités du sol. Les tiques, c'est donc le sujet de notre émission du mois. Et pour nous en parler, Madame Gwenaëlle Wourche, qui est chercheuse scientifique, directrice de l'unité d'épidémiologie animale à l'INRA de Clermont-Ferrand. Madame Wourche, bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on va en apprendre un petit peu plus sur les tiques. Alors déjà, on entend dire par certaines personnes que ce sont des insectes.
Non, la tique, c'est, on dit la tique et pas le tique d'ailleurs, c'est un acarien.
Un acarien comme ceux qu'on trouve dans les poussières et auxquels certaines personnes sont allergiques?
Oui, c'est ça. Mais les acariens des poussières sont microscopiques, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Alors que les tiques, elles sont visibles à l'œil nu, ce sont en fait comme des gros acariens. Mais malgré ça, leur taille reste toujours tout de même modeste, parce que les larves et les nymphes sont à peine visibles à l'œil nu. La larve fait moins d'un millimètre de long. L'adulte, elle peut faire jusqu'à 2-3 cm à peu près pour une femelle adulte gorgée de sang. Donc ça reste quand même petit.
Oui, donc à France Lime, nous on a un slogan qui dit « petite tique, grosse maladie ».
Oui, c'est vrai que c'est assez approprié. Les tiques sont capables d'occasionner de gros dégâts via les agents pathogènes, c'est-à-dire les bactéries et les virus qu'elles véhiculent, qui sont effectivement bien plus importants qu'en relative à la petitesse de l'animal. Mais en fait, imaginez, le virus du sida ou Ebola sont des organismes très petits, mais en fait qui causent des maladies très importantes.
Mmh. En dehors d'être petite, à quoi ça ressemble une tique? Et quelle est la différence justement avec un insecte?
Alors, une tique, ça a des points communs avec un insecte, puisque c'est aussi un arthropode. Ce qu'on appelle un arthropode, c'est un animal qui possède des pattes articulées et qui a sa structure dure, qui tient en fait le corps, qui est à l'extérieur. Ça, c'est à la différence des êtres humains, pour lesquels la structure qui tient, c'est les os, qui sont à l'intérieur du corps. Et donc, parmi les acariens, on a aussi les araignées, les crustacés, les mille-pattes, les scorpions. Et ce qui caractérise les acariens, c'est d'une part le nombre de pattes. Elles ont 4 paires de pattes chez l'adulte, c'est-à-dire 8 au total, alors qu'il n'y en a que 3 chez la larve. Et la forme du corps, qui est globuleux et en une seule partie, sans tête différenciée.
Alors là, ça va surprendre beaucoup de personnes, parce que beaucoup de gens disent que la tique rentre sa tête dans la peau des gens. Alors, si elle n'a pas de tête, comment elle peut faire?
Oui, c'est vrai, on dit ça, mais en fait, ce n'est pas à proprement parler une tête. Mais par contre, il y a effectivement des pièces qui rentrent dans la peau. Donc ce sont les pièces buccales. C'est des organes qui permettent de percer la peau, qui s'y fixent, et ça permet à la tique de se nourrir. La tique, elle n'a pas d'yeux ni d'antennes, ce qu'on peut trouver en revanche chez les insectes. Mais la tique a un corps qui est formé d'une seule partie, une espèce de forme de goutte d'eau, et à l'avant, il y a ses pièces buccales. Et donc aussi, elle a 4 paires de pattes.
Donc si elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'antenne, comment est-ce qu'elle peut percevoir le monde extérieur? Et en particulier, comment est-ce qu'elle peut trouver l'autre qu'elle va parasiter?
Alors, elle n'a pas d'yeux ni d'antenne, mais elle possède quand même des organes sensoriels, et notamment un sur chacune de ses pattes avant, et qui lui permettent de percevoir les odeurs, les substances chimiques, le CO2 dégagé par les animaux, l'humidité atmosphérique, etc. Et on appelle cet organe l'organe de Haller.
Donc on parle des tiques en général depuis le début de l'émission, mais en réalité il existe très nombreuses espèces différentes de tiques, je crois.
Oui, c'est vrai, on met un peu tout dans le même panier. Mais en fait il existe près de 900 espèces de tiques à travers le monde et une quarantaine en France. Et parmi ces espèces, il y a seulement une partie, à peu près une dizaine environ, qui pique l'homme.
Donc on remarque quand la tique s'est fichée dans la peau, c'est là qu'on la voit, sur nous ou bien sur des animaux de compagnie comme les chats ou les chiens. Mais avant d'arriver là, elle était où la tique? Et comment elle est arrivée là? Et qu'est-ce qu'elle devient si on la laisse en place?
En fait, là, il faut que je vous raconte la vie de la tique. C'est un cycle. Donc, si on peut commencer par sa sortie de l'œuf. Si on part d'une tique adulte femelle qui pond, elle pond environ des 2 à 3 milliers d'œufs pour une espèce qui nous intéresse particulièrement en France, qui s'appelle Ixodes ricinus. C'est une des espèces les plus communes. Et donc, de chacun de ces œufs sort une larve qui mesure environ 1/2 millimètre de long et qui n'a que 6 pattes. Cette larve, pour continuer sa vie, doit trouver un hôte et s'y fixer pour s'y nourrir de sang. Vu qu'elle est très petite, en fait, elle ne se déplace pas énormément et ne monte pas très très haut dans la végétation. Et d'autant plus qu'elle est très sensible à la sécheresse et elle a donc besoin d'une forte humidité atmosphérique, sinon elle se dessèche et elle meurt. Donc elle reste plus souvent dans les herbes assez basses et elle attend le passage d'un hôte. Et les larves se déplacent peu par leurs propres moyens. Donc on peut les trouver dans des endroits tels que des zones de feuilles mortes, des buissons remplis de petites tiques. Et ils sont remplis de petites tiques parce que c'est là que la ponte a eu lieu. Donc si un animal passe à son niveau, la larve s'accroche dessus. Donc elle a une stratégie vraiment d'attente et ensuite elle s'accroche. Ses pattes sont terminées par deux petites griffes et une ventouse. Et elle peut donc ainsi s'agripper fermement. Puis elle se déplace sur le corps de l'animal à la recherche d'un lieu favorable pour piquer. Donc en général, c'est là où la peau est la plus fine et la plus irriguée, par exemple sur les petits rongeurs, sur les oreilles. Et l'animal sur lequel elle se fixe, ça peut être un petit rongeur, un oiseau, un chevreuil et même parfois l'homme. Une fois fixée, elle commence à se nourrir de sang. Donc ça dure plusieurs jours et quand elle en a pris suffisamment, elle se décroche et se laisse tomber sur le sol. Là, pendant un temps qui peut durer plusieurs semaines, elle digère son repas et elle grandit. Puis elle effectue une mue qui va passer au stade suivant, le stade qu'on appelle nymphe. Et à ce stade-là, là, elle a 8 pattes et elle mesure environ 1 mm.
Donc elle a doublé de taille depuis le début parce qu'elle faisait qu'un demi-millimètre. Mais enfin, ça reste encore très très petit, 1 mm.
Oui, c'est petit. On peut le voir à l'œil nu, mais c'est vrai qu'il faut faire bien attention. Donc la nymphe, elle recommence un peu ce qu'a fait la larve, c'est-à-dire qu'elle se remet en quête d'hôte. Une fois qu'elle aura trouvé un hôte, elle va se fixer dessus, pareil, et elle va se gorger de sang pendant plusieurs jours. Et donc lors de ce deuxième repas, en fait, la nymphe, elle peut transmettre les agents pathogènes qu'elle avait déjà acquis soit à la naissance, soit ceux qui sont acquis lors du premier repas qu'elle a eu quand elle était larve. Et lors de ce deuxième repas de nymphe, elle double à peu près de taille, puis elle se détache, pareil, se laisse tomber sur le sol, elle digère son sang et elle effectue une dernière mue qui va la transformer en adulte, mâle ou femelle. Les adultes sont encore plus gros, 2 mm pour le mâle, environ 4 mm pour la femelle. Ils sont un peu plus résistants à la sécheresse et ils peuvent monter dans la végétation, on pense à peu près jusqu'à 1,50 m de hauteur. Ces adultes s'accrochent préférentiellement, eux, aux grands animaux tels que les chevreuils, par exemple, les cerfs, les vaches. Les adultes se rencontrent sur ce dernier hôte-là et après l'accouplement, le mâle meurt, tandis que la femelle, elle continue à se gorger de sang pendant environ une semaine jusqu'à atteindre 200 fois son poids de départ.
200 fois son poids de départ, 200.
Et oui, c'est énorme. Si on veut faire la comparaison, c'est comme si un homme de 70 kilos, eh ben, il atteignait 14 tonnes. Ou alors si un bébé de 3 kilos à la naissance pesait 600 kilos au bout d'une semaine. En fait, le tégument de la tique est très extensible et sa taille augmente ainsi jusqu'à atteindre 2 à 3 cm de long. Et une fois gorgée, la tique, de nouveau, se laisse tomber sur le sol.
Là, on se croirait vraiment dans un film de science-fiction comme Alien. Là. Donc, elle se gorge, elle se laisse tomber, elle mue, elle grandit, elle revient, elle se gorge. Ça dure combien de temps comme ça?
Non, ça s'arrête là. C'est vrai que c'est pas indéfini, sinon on pourrait imaginer arriver à un monstre. Mais en fait, après le stade adulte, il n'y a plus de mue. Mais par contre, toute l'énergie accumulée au cours de ce repas va lui permettre de faire mûrir ses œufs, donc ses milliers d'œufs, qu'elle va pondre dans un endroit abrité humide, par exemple des anfractuosités du sol ou sous les feuilles mortes.
Alors là, si chaque tique femelle pond des milliers d'œufs, 2 ou 3 000 œufs, on devrait être complètement envahi par les tiques.
Oui, on pourrait penser ça, mais en fait, les larves sont très fragiles et 95% quasiment sont éliminées par les conditions climatiques, la sécheresse, etc., les prédateurs ou les parasites.
Parce que les tiques sont parasitées, elles aussi?
Et oui, presque finalement, comme chaque organisme, elles sont des parasites, mais elles sont aussi parasitées. Il existe par exemple des champignons ou des vers qui les parasitent et peuvent parfois les tuer. Elles peuvent aussi être mangées par des amphibiens, des reptiles, des oiseaux. Et ça, finalement, à chaque stade. Donc il y a une très forte mortalité sur les tiques. Et globalement, on estime que sur 1 000 œufs pondus à peu près, un seul donnera un adulte, si bien que entre les 2 et 3 000 œufs, ça suffira juste pour assurer la génération d'après.
Et combien de temps ça prend pour boucler tout ce cycle en partant d'un œuf et retourner à un œuf?
En fait, c'est extrêmement variable. Ça dépend des conditions climatiques. Le froid ralentit ou arrête l'activité des tiques. mais aussi la rapidité avec laquelle la tique va trouver un hôte à chaque stade. Et une fois que son repas sanguin est digéré, sa mue va s'effectuer et doit attendre le passage d'un hôte suivant, perché à l'affût sur la végétation. Et chaque fois que l'air devient trop sec, elle doit redescendre, se réfugier sur les feuilles mortes et dans les crevasses du sol. Donc en fait, l'essentiel de la vie de la tique, elle passe à attendre son hôte. Et elle peut ainsi rester des années sans manger, à attendre son prochain repas.
Des années, vraiment des années.
Oui, la durée d'un cycle en moyenne est 2 à 4 ans. Mais ça peut aller jusqu'à 7 ans si les conditions climatiques ne sont pas favorables.
Et donc sur toutes ces années de vie, en fait, la tique ne passe que très peu de temps fixée sur un hôte.
Oui, c'est vrai. Elle passe la majeure partie de son temps dans l'environnement et en tout environ une vingtaine de jours sur les hôtes.
Il y a la nature qui est toute en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux, eux, ils disent pas non, c'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour monnaie, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Et y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Et y a la pluie qui est passée chez Dior, pour se payer le modèle soleil d'or. Y a la route qui se fait nationale et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Et y a de la luzerne au fond des lits et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et il y a le Beaujolais qui la ramène, et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu.
RCF 61, votre radio locale.
Vous écoutez Médiatique et aujourd'hui on parle des tiques justement avec Madame Gwenaëlle Vourche. Alors on a parlé à plusieurs reprises du fait que les tiques ont besoin d'une forte humidité atmosphérique et ça peut probablement expliquer qu'on ne trouve pas les tiques n'importe où en fait.
Oui c'est vrai, en dehors des tiques qui vivent au fond des terriers et qui ne sont pas vraiment un problème pour l'homme, le facteur limitant essentiel pour les tiques qui vivent sous nos latitudes, et en particulier pour la tique Ixodes ricinus, c'est l'humidité atmosphérique. Donc on va les trouver surtout dans les forêts, mais aussi dans les lisières de forêt, dans les haies épaisses, et sous les climats doux et humides. Mais il faut garder en tête qu'en fait, il existe plusieurs espèces de tiques, comme je vous l'ai expliqué avant, et donc certaines espèces sont tout de même plus résistantes à la sécheresse. Et on peut trouver différentes espèces dans les prairies, les milieux urbains et aussi dans les zones tropicales et chaudes.
Et en dehors de la sécheresse, est-ce qu'il y a autre chose que les tiques craignent ?
Oui, il y a aussi le froid et le chaud. En France, on considère par exemple qu'elle est peu active en dessous de 5-7 degrés, également au-dessus de 25-30 degrés. Mais en fait, des recherches récentes ont montré que l'espèce de tique Ixodes ricinus a une certaine adaptation aussi au climat où elle vit. Donc en gros, elle sera plus active par temps froid en Norvège qu'au sud de la France.
Cela dit, 25 degrés à l'ombre des forêts normandes, ça n'arrive pas très souvent, malheureusement pour nous.
Effectivement, d'autant que la tique, elle peut, quand il fait trop chaud, se réfugier sous les feuilles mortes et au contact, être au contact de l'humidité et de la fraîcheur de sol. Mais pendant ce temps-là, elle ne peut pas rechercher un hôte. Cependant, il a aussi été démontré qu'en fait, les tiques porteuses de la bactérie Borrelia, qui cause la maladie de Lyme, ces tiques-là ont plus de réserves énergétiques et survivraient mieux à la sécheresse.
Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Donc, résumons, les tiques, comme par exemple Ixodes ricinus, ne supportent pas la sécheresse, ne supportent pas le froid ni la grande chaleur. Donc en fait, logiquement, elles doivent se faire plus rares en hiver et puis également en été, à condition que l'été, lui, soit chaud et sec.
Oui, c'est ça. Par exemple, dans le quart nord-est de la France, l'activité d'Ixodes ricinus s'étend surtout de mai à octobre, avec une certaine accalmie juillet-août. Mais comme je vous l'ai dit, les tiques s'adaptent et elles peuvent être aussi plus actives dans le froid ou dans le chaud, dans les zones plus chaudes ou plus froides.
Et logiquement, en été, quand il fait assez sec, elles devraient être plus actives la nuit lorsque l'humidité remonte un petit peu à la fraîche.
Oui, c'est sûr. Après, quand on étudie les tiques, on ne va pas très souvent aller voir ce qui se passe l'hiver, la nuit, je veux dire. Mais ça augmente, cette stratégie-là d'être active la nuit, ça devrait aussi augmenter leurs chances de rencontrer les mammifères dont elles se nourrissent, car la plupart sont plutôt nocturnes.
Alors si on s'intéresse tellement aux tiques, ce n'est pas vraiment à cause de la petite quantité de sang qu'une tique peut prélever sur son dos, où c'est quand même très, très limité, mais c'est plutôt à cause donc, des maladies qu'elles peuvent transmettre. Alors il y a bien sûr la maladie de Lyme, mais en fait ce n'est qu'une maladie parmi bien d'autres.
Effectivement, les tiques transmettent des agents pathogènes qui, eux, provoquent les maladies. Et la maladie de Lyme provoquée par les Borrelia est une maladie parmi d'autres.
Alors depuis quelques mois, les médias s'intéressent à la maladie de Lyme. On a beaucoup entendu parler de la bactérie responsable de Lyme qui s'appelle Borrelia burgdorferi. On parle moins des Babesia qui sont pourtant très présentes dans les régions d'élevage bovin. Et qu'est-ce qu'on peut attraper encore en plus des Borrelia et des Babesia en étant piqué par une tique?
Effectivement, on peut attraper beaucoup de choses. Déjà, il faut parler des Borrelia et pas de la Borrelia parce qu'en fait, il existe plusieurs espèces génétiques qui sont présentes en France. Il y a Borrelia burgdorferi, qu'on appelle sensu stricto, mais il y a aussi des Borrelia garini, spilmali, valesiana, azeli. Et une même personne, elle peut être contaminée par plusieurs de ces espèces en même temps. Pour les Babesia, là aussi, il y a plusieurs espèces. Il y a Babesia divergens, qui touche normalement principalement les bovins. Mais il y a aussi Babesia spe1, dont le réservoir, c'est le chevreuil. Ou même Babesia microti, qui est la Babesia trouvée en Amérique du Nord, mais dont on a observé quelques cas en France. Ensuite, il y a d'autres bactéries qui peuvent être transmises par la même espèce de tique, comme Anaplasma phagocytophyllum, qui cause l'anaplasmose granulocytaire, le virus de l'encéphalite atique, ou par d'autres espèces de tiques, comme la fièvre boutonneuse méditerranéenne dans le sud de la France, par exemple.
Et donc c'est un sujet qu'on va aborder d'ailleurs plus en détail dès le mois prochain avec une autre chercheuse de l'INRA, Muriel Vessier, dont c'est justement la spécialité étudier les divers agents pathogènes présents dans les tiques.
Oui, elle travaille là-dessus et notamment en utilisant les nouvelles technologies de détection de pathogènes qui ont permis d'étudier encore plus précisément le panel de pathogènes dans les tiques. Et on s'aperçoit qu'on peut en découvrir encore. Et on s'aperçoit aussi que la plupart du temps, une tique est infectée par plusieurs agents pathogènes et pas un seul.
Donc quand on ne se sent pas bien avoir été exposé à des morsures de tique, ce n'est pas forcément la maladie de Lyme au sens strict.
Eh bien non, ça complique encore la situation. Cependant, la plupart des bactéries qu'une tique peut transmettre sont quand même souvent sensibles aux antibiotiques. Et donc un traitement contre la Borrelia sera assez efficace contre ces autres bactéries. Mais bon, il faut quand même utiliser astucieusement les antibiotiques et au bon moment. Les tiques sont des vecteurs de ces pathogènes dans le sens où elles transportent les agents pathogènes d'un animal à l'autre. Donc en piquant un animal infecté, elles acquièrent le pathogène, il se multiplie chez les tiques et ensuite la tique au stade d'après, elle le réinjecte dans un autre animal lors de son repas. Mais pour un certain nombre d'agents pathogènes, il existe aussi une transmission qu'on pourrait dire transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle est transmise de l'adulte à l'œuf. Et donc, une larve de tique, dès sa naissance, peut être porteuse de certains agents pathogènes et les conserver aussi à travers ses mues. En fait, on dit que la tique est à la fois un vecteur, puisqu'elle transmet d'un animal à l'autre des agents pathogènes, mais aussi un réservoir, parce qu'elle peut entretenir elle-même le cycle de ces pathogènes.
Malgré tout, pour être un peu optimiste, il y a certaines personnes qui se font piquer par des tiques et qui ne développent pas de maladie. Alors on peut penser qu'elles ont un excellent système immunitaire, mais aussi peut-être le fait que, heureusement, peut-être que toutes les tiques ne sont pas porteuses de microbes pathogènes.
Oui, c'est sûr. C'est toujours une interaction entre ce qui se passe chez l'hôte et ce qui se passe chez le vecteur. Et effectivement, par exemple, pour la borreliose de Lyme aussi, on considère, on estime qu'il y a environ 20% des tiques adultes et 10% des nymphes qui sont infectées, bien que ces chiffres soient variables suivant les sites, etc. Et on ne connaît pas les chiffres si on prend en compte l'ensemble des pathogènes. Mais on peut penser qu'il y a quand même certaines tiques qui sont peu infectées.
Alors, je voudrais revenir un peu sur le repas que la tique fait sur son hôte. Comment ça se passe exactement? Et en particulier, comment est-ce qu'elle va contaminer l'hôte avec les différents pathogènes qu'elle porte?
Alors, les pièces buccales de la tique comprennent deux petits appendices latéraux, les chélicères, et une sorte de rosp central hérissé de petites dents comme un harpon, l'hypostome. Lorsque la tique a choisi l'endroit où elle va s'installer, une zone de peau assez fine, bien irriguée, elle commence par découper la peau avec les chélicères.
Mais ça doit faire mal, ça.
Eh bien non, justement, ça ne fait pas mal. Et la tique est très petite et en même temps, elle sécrète de la salive qui contient des substances anesthésiantes. Cette salive contient aussi des enzymes digestives et donc elle creuse son chemin à travers la peau, aussi bien mécaniquement que chimiquement.
Donc elle digère notre peau et nous, on ne sent rien.
Rien du tout. Et c'est un peu ça le problème, parce que du coup, on ne peut pas très bien la détecter quand elle nous pique. Il y a certaines personnes qui présentent une sensibilité, donc c'est une sorte d'allergie à la salive de tique. Alors ces gens-là, ils pourront sentir une irritation au bout d'un moment, mais en fait ce n'est pas la majorité. D'autant qu'en plus de ces substances anesthésiantes de la salive contient aussi des substances qui diminuent l'inflammation et la réaction immunitaire de l'hôte. Et bien sûr, cette salive contient aussi des substances anticoagulantes qui vont empêcher le sang de coaguler. Et donc, ça va permettre à la tique de se nourrir pendant plusieurs jours.
Elle pique à l'intérieur d'un vaisseau sanguin?
En fait, pas vraiment. Il faut se rappeler que la tique est très petite et donc son rostre lui-même est encore plus petit. Donc, il ne peut pas s'enfoncer forcément très profondément dans la peau et atteindre un vaisseau sanguin. La morsure souvent reste cantonnée à la couche superficielle de la peau. Donc, elle creuse petit à petit une cavité dans laquelle elle rentre son hypostome, cette espèce de rostre en forme d'harpon. Elle maintient cette cavité ouverte et tous les minuscules vaisseaux sanguins, des capillaires microscopiques qu'elle a rompus sur son chemin, vont déverser leur sang en continu dans cette cavité. Et le tout est bien scellé par une substance qu'on appelle le sément et qui maintient le tout fermement.
En fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec la piqûre d'un moustique, par exemple. Là, elle s'installe pour rester. Et entre le moment où elle commence à creuser et le moment où elle s'est bien installée, on a une idée du temps qui s'écoule?
On pense que ça peut prendre 30 minutes à quelques heures. Et une fois qu'elle est bien ancrée, elle va commencer à se nourrir en alternant injection de salive et inspiration. C'est dans la salive que sont les organismes pathogènes si elle les transporte. Certains sont déjà là en attente, comme le virus et encéphalite atique. Donc elle va le transmettre vraiment très rapidement. Par contre, pour les borrelia, c'est un peu plus compliqué, car ces borrelia gagnent les glandes salivaires lorsque le sang commence à affluer dans le tube digestif de la tique. Il y a donc un délai plus grand entre le début de la morsure et éventuellement une contamination par borrelia. Mais pour certains pathogènes, donc comme le virus et encéphalite atique, la contamination se peut faire dans la demi-heure qui suit l'installation.
Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné la présence de substances qui abaissent l'immunité dans la salive de la tique. Alors, puisque la tique peut inoculer des microbes pathogènes, c'est sûrement pas une bonne nouvelle, ça.
Effectivement, ces substances, en fait, elles augmentent les probabilités que ces microbes arrivent à s'installer dans l'organisme, puisque c'est la première ligne de défense qui est ainsi affaiblie. Cela a été démontré par des contaminations expérimentales, en particulier chez les borrelia, les agents de la maladie de Lyme. La contamination est plus efficace si en même temps que la bactérie, on injecte de la salive de tique. Et elle est en fait encore plus efficace quand c'est la tique infectée qui est utilisée plutôt qu'une piqûre. Et ce qui montre que le phénomène est sans doute encore plus complexe que ce qu'on est arrivé à comprendre pour l'instant.
La salive de tique a l'air de contenir des substances aux propriétés assez remarquables. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont spécialisés pour étudier ce genre de choses?
Oui, il y a des chercheurs qui étudient ça et il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. On a identifié plusieurs centaines de protéines différentes, mais seulement une faible proportion, je crois de l'ordre de 25%, ont fait l'objet d'études pour définir leurs propriétés. Donc il y a certainement énormément de substances à découvrir. Et en plus, ces substances vont bien sûr varier en fonction des espèces de tiques.
Alors pour finir sur une note optimiste, j'ai entendu dire que ces substances pouvaient en fait être utiles pour les êtres humains.
Effectivement, les chercheurs étudient aussi cela, car ces substances pourraient avoir des applications en médecine, puisqu'on a une large panoplie de molécules aux propriétés anticoagulantes, anti-inflammatoires, anesthésiantes, même immunosuppressives, et qui pourraient aussi intervenir contre les cancers. Elles pourraient offrir des alternatives donc aux médicaments existants et se révéler efficaces. Voilà, c'est à étudier.
Donc, en attendant ces jours meilleurs où les tiques vont peut-être sauver des vies, il n'en reste pas moins qu'il faut se protéger de toutes les maladies qu'elles transmettent. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel des précautions à prendre en cette veille de printemps ?
Oui, c'est très important ça, de bien prévenir la transmission de pathogènes. Donc, pour les activistes dans la nature, il faut bien porter des vêtements couvrants, en particulier des pantalons, des longues chaussettes par-dessus les pantalons. Les tiques auront ainsi beaucoup plus de mal à trouver le chemin vers la peau. On peut aussi ajouter des répulsifs. En retour de promenade, c'est vraiment très important de s'inspecter, d'enlever les tiques s'il y en a, préférentiellement avec un tire-tique qui est vendu en pharmacie ou chez le vétérinaire. Plus vous enlevez les tiques rapidement, moins vous avez de chances qu'ils transmettent des pathogènes. Secouer les vêtements en dehors, prendre une douche pour éliminer les minuscules larves ou nymphes qui n'auraient pas eu le temps de se fixer et s'observer si jamais on a des symptômes un peu bizarres quelques jours après avoir observé qu'une tique s'est fixée sur vous, aller chez le médecin.
Bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils, Madame Gonalet-Levourche. Merci d'avoir répondu à ces questions. Au revoir.
Au revoir. Thank you.